Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. Aujourd'hui, c'est un jeune auteur de bande dessinée que je reçois, Baptiste Desrailles. Le Pas de la Manu, le titre de sa première BD, se déroule au début des années 60 dans la manufacture d'armes de Saint-Étienne, la MAS, qui a été fermée en 2002. Et à travers quelques personnages de cette manufacture, Baptiste Desrailles esquisse le portrait d'un grand disparu, le monde ouvrier ou la classe ouvrière française. Sujet passionnant et traitement graphique audacieux, coédité par Actes Sud et L'An 2, Le Pas de la Manu est la bonne surprise de cette fin d'année en bande dessinée.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Baptiste Desrailles.
Bonjour Toufik.
Vous avez 30 ans, vous êtes né à Saint-Étienne, c'est bon de le rappeler, en 1990. Je sais que vous avez étudié à l'école des beaux-arts de Saint-Étienne, qui elle-même est installée sur le site de la MAS.
Oui, c'est vrai.
Ça ressemble à quoi aujourd'hui, ce site de la MAS transformé en école des beaux-arts?
Alors c'est tout restructuré, c'est tout neuf. On a encore les bâtiments, on va dire de 1886, et qui sont très beaux. Et on a une restructuration totale du site qui doit faire une sorte d'usine créative où maintenant sont mis les beaux-arts, la Biennale du design, des ateliers, des choses comme ça.
Et ça fait quoi d'étudier les beaux-arts dans un site qui a été longtemps l'usine pour l'industrie
C'est pas évident au début. C'est pas évident de se dire que c'est qui était fait des armes et que maintenant on essaie de faire autre chose. Mais je me souviens que la première année où je suis arrivé, qui était la première année d'ouverture de l'école, il y avait encore certains bâtiments qui étaient sous contrôle militaire et donc il y avait des militaires. Qui gardait des portes. Et nous, on passait avec notre carton à dessin et ça nous semblait tellement absurde ce moment où il n'y avait aucun échange entre nous.
Et pourtant, à travers votre histoire et à travers les personnages de cette manufacture, Baptiste Desrailles, vous rendez hommage à la MAS en racontant l'histoire de quelques ouvriers.
Moi, c'était les histoires de la MAS sont vraiment ancrées, on va dire, dans le paysage stéphanois. C'est des histoires que j'ai entendues depuis que je suis tout petit, notamment par mes grands-parents qui avaient des amis qui travaillaient à la MAS, qui étaient des manuchards. Donc,
C'est
comme ça qu'on les appelait. Et tous ces manuchards racontaient ce qui se passait à l'usine et racontaient ce qu'ils construisaient, mais ne parlaient rarement d'armes, finalement. Toutes ces histoires ancrées vraiment dans Saint-Étienne, qui sont vraiment devenues des expressions. Ben, le pas de la Manu, qui est une expression très connue à Saint-Étienne, qui veut dire, travailler sans se presser, adopter le pas de la Manu, ça a été faire les choses tranquillement. Et ça a plusieurs origines et significations que je raconte un peu dans le livre aussi. C'est-à-dire que ce qu'on a raconté, c'était que les ouvriers arrivent en courant à l'usine et dès qu'ils passent les grilles, ils se mettent à marcher tranquillement parce que ils sont payés contrairement à par exemple la mine qui fonctionne. La mine fonctionne avec les 3-8, donc ils sont constamment sous pression. Et puis il y a cette arrivée du taylorisme et de la partialisation du travail qui commençait vraiment à arriver, qui existait déjà aux États-Unis mais qui arrivait. Mais la Manu était préservée de ça. Je pense qu'il y avait ça véritablement à la masse. Mais c'était surtout la vue des autres entreprises qui se moquaient un peu des manuchards. Ça, c'est une raison, et il y en a d'autres. C'est les manuchards disent que c'est surtout un acte de résistance pendant la guerre, de 40, la manufacture d'armes était un enjeu stratégique et était sous occupation allemande. Et le fait de marcher lentement, de travailler très lentement, était un effort pour ralentir l'effort de guerre allemand.
Aujourd'hui, la manufacture d'armes de Saint-Étienne appartient à l'histoire de la ville. Est-ce qu'on l'appelle la MAS ou est-ce qu'on continue à l'appeler affectueusement la Manu?
J'ai souvent entendu la MAS, mais c'est vrai que la Manu est devenue une sorte de sigle très sympathique pour désigner tout l'ensemble de bâtiments. Moi, je l'ai toujours appelé la Manu, mes grands-parents l'ont toujours appelé la Manu et ceux qui y travaillent l'appellent plutôt la MAS.
Alors vous, vous avez décidé de parler de cette histoire de la manufacture dans les années 60. Et s'il fallait remonter dans le temps, Baptiste Desrailles, vous savez pourquoi on a choisi Saint-Étienne et ce site-là pour construire cette grande usine d'armes ?
Saint-Étienne était déjà connu déjà pour à la base pour ses armes dans les années 1600 et quelques. Et il y avait plein d'artisans qui fabriquaient des fusils, qui gravaient des fusils, et progressivement, petit à petit, ils se sont rassemblés et ils se sont organisés entre eux pour créer la première, une des premières manufactures. Ce serait François Ier qui aurait décidé de confier cette tâche de manufacture royale d'armes à Saint-Étienne. Et progressivement, d'aiguille en aiguille et de gravure en gravure, ils se sont organisés jusqu'à une démocratisation totale de la ville dans son industrie, notamment dans les années 1816. Et là, c'est le premier grand boom industriel de la ville qui se développe complètement. La ville est complètement réorganisée autour de son industrie, du ruban.
Nous, bien sûr, on a fait une enquête pour connaître un peu mieux l'histoire de la masse et on est tombé sur cette archive d'un universitaire de Saint-Étienne que vous connaissez peut-être, un maître de conférence habilité à l'université de Saint-Étienne, Jean-François Brun.
Alors, pourquoi une manufacture nouvelle génération à Saint-Étienne ? Plusieurs raisons. D'abord, Saint-Étienne, le bassin stéphanois, produit le tiers de l'acier français, notamment les aciers spéciaux. Des compétences professionnelles évidentes. Il y a à peu près 5000 armuriers, 80 entreprises, et on ne voudrait pas non plus que, compte tenu des salaires meilleurs offerts dans d'autres secteurs de l'industrie, ces armuriers partent vers ces industries. Des innovations réussies, le revolver, le faucheux, le canon en acier du fusil de tirailleurs sénégalais en 1862.
Alors vous êtes intéressé plutôt dans cette bande dessinée, Baptiste Desrailles, dans les années 60. Qu'est-ce qu'on fabriquait dans les années 60 ? Quel genre d'armes on fabriquait dans cette manufacture ?
Ah, on fabriquait pas mal de trucs, je crois qu'on fabriquait surtout le MAS 56, qui est le fusil de l'armée française à l'époque, c'est lui qui est parti, qui était sur tous les fronts, je crois. Et on fabriquait aussi de l'équipement pour les chars AMX, qui sont les chars d'assaut utilisés à l'époque.
Donc c'est-à-dire que pour vous, c'était aussi un exercice de dessiner ces armes ?
Oui, c'est de dessiner les armes, et c'est très difficile parce que c'est une mécanique qui est assez précise, on va dire. Et donc, si jamais on dessine mal ces armes, elles sont toutes molles et on n'y croit pas.
Les ouvriers de la Manu, vous le dites, de cette manufacture d'armes de Saint-Étienne, profitaient aussi du fait qu'ils étaient sur place pour se fabriquer des petites bricoles pour la maison, pour des amis. Ça s'appelle perruquet, c'est ça ?
Oui, le travail en perruque. Ouais.
Et ben, ce travail en perruque, c'est ça qui fait l'histoire de votre bande dessinée. On suit quelques ouvriers qui, justement, fabriquent autre chose pour eux que les armes.
Moi, je voulais, pour revenir un peu en arrière, je voulais parler de l'usine et chercher un moyen d'entrer dans l'usine, notamment dans cette usine-là dans laquelle j'avais marché, même si elle avait été restructurée. Et j'ai trouvé que cette action de la perruque était vraiment quelque chose de très beau pour rentrer dans le sujet de l'usine, parce que c'est vraiment l'irruption d'un acte presque artistique des ouvriers, d'une sorte d'envie totale de l'ouvrier qui essaye justement de trouver un sens à ce qu'il fait. Trouver un sens à ce qu'il fait, c'est pas forcément construire toujours la même chose, mais pouvoir suivre un objet sur toute sa fabrication, et un objet utilitaire dans lequel il a besoin, ou un objet décoratif pour faire plaisir à quelqu'un, c'est quelque chose qui, je trouve, assez beau comme rapport à l'idée de ces ouvriers.
Et parmi ces ouvriers de votre bande dessinée de fiction, il y a Jean. Lui, il a un rêve encore plus grand que ceux qui bricolent des petites pièces pour réparer leurs ustensiles de cuisine.
Ouais, lui, il veut construire carrément un bateau pour
Donc un voyager. Moteur.
Un moteur de bateau. Mmh. Et c'est un peu dans toutes les perruques que j'ai vues ou que j'ai regardées, c'est vraiment le moteur ou les mécaniques comme ça sont vraiment le graal du perruqueur. Je sais qu'il y en a qui ont construit des motos, et je sais qu'il y en a qui ont construit un avion. Et le fait de construire quelque chose qui est quelque chose de brillant mécaniquement, comme l'est un moteur, avec énormément de pièces qui doivent s'imbriquer, qui doivent être ajustées au millimètre, c'est l'acte ultime du perruqueur. Et en plus, un bateau qui permet vraiment de le symbole d'une sorte d'évasion totale du personnage. Donc c'était pour ça. Et qui vient d'une vraie histoire, puisque du coup, c'est quelque chose que j'ai pris un collègue à mon père qui travaille aussi dans la mécanique, qui est enseignant et qui a construit son bateau dans son jardin à partir de rien.
Toute l'histoire de votre bande dessinée, Baptiste Desrails, c'est une fois qu'ils ont réussi à construire des pièces, et là, un moteur de bateau, c'est quand même une pièce qu'on ne peut pas dissimuler sous sa veste. Toute l'histoire et toute l'intrigue de la bande dessinée, c'est comment faire sortir cette pièce?
J'essayais de mettre une sorte d'affaire un peu presque policière dans mon récit. Ce suspense, je savais qu'il y avait quelque chose à jouer dans « Va-t-il réussir à sortir son moteur ou pas ?»
Le pas de la Manu, on va parler maintenant du traitement graphique et puis surtout pourquoi vous avez choisi les années 60 pour revenir sur l'histoire de cette manufacture. Mais parmi les célébrités de la chanson française, ça c'est une question que je vous pose de bon matin, Baptiste Desrails, parmi les célébrités de la chanson française, il y a un qui a travaillé dans cette manufacture des armes.
Oui, c'est Bernard Lavilliers.
Et on l'écoute.
Le réveil culturel, Toufik Hakem sur France Culture.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit, de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces. Le gel et la mort, un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir.
Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Bernard Lavilliers, qui a lui aussi travaillé à la manufacture d'armes de Saint-Étienne, dans les laminoirs, il a fait les 3-8. Et dans votre bande dessinée, Baptiste Desrails, vous nous montrez quelques personnages à partir d'enquêtes que vous avez menées, quelques ouvriers, quelques contremaîtres. Au centre, quelqu'un qui s'appelle Jean, qui va être un peu le personnage principal de votre bande dessinée. Je rappelle le titre, Le pas de la Manu. Pourquoi vous avez choisi les années 60, plus précisément parce qu'il est question aussi d'espionnage industriel à cette époque-là. On est en pleine guerre froide encore. Et parce qu'il y a aussi cet épisode douloureux de la guerre d'Algérie. C'est les deux dernières années de la guerre d'Algérie.
Ouais, c'est la fin de la guerre d'Algérie. J'aimais bien l'idée de l'après-guerre où il y avait quelque chose de heureux en fait dans les usines, et notamment à la masse, il y avait un côté euphorique un peu à l'après-guerre. Ils disaient qu'ils travaillaient vraiment dur, mais qu'ils étaient heureux. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Et en fait, la bande dessinée, je voulais la faire que ça dure une semaine et qu'en réalité, il se passe pratiquement 30 ans. Et je pense que ça commence dans les années 50, et progressivement, je finis dans les années 70 avec l'arrivée de nouvelles machines, l'arrivée de la commande numérique qui a changé énormément de choses pour les travailleurs, on l'imagine.
Donc on est en pleine mutation dans cette
mutation.
Dans cette bande dessinée, ouais.
Ils disaient pas qu'avant c'était mieux, mais que c'était qu'ils avaient plus de temps en fait. C'était tout ça, c'est une notion de temps, et la notion de temps, je pense, est importante aussi à la fois dans la perruque. Et à la fois dans comment j'ai raconté cette histoire, parce que j'ai mis presque 5 ans à la faire, c'est un temps énorme.
parce que vous avez décidé pour cette bande dessinée, Baptiste Desrail, de travailler avec la technique du monotype sur zinc, c'est-à-dire une méthode de gravure. Est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer ?
Oui, alors le monotype, c'est une technique d'estampe qui consiste à utiliser une encre, on va dire une encre très grasse, et de dessiner sur une plaque de zinc. C'est très agréable, c'est comme dessiner sur du verre, on peut essuyer facilement avec les doigts. On a quelque chose de très malléable, de très doux. Et après, une fois que notre dessin nous plaît, on peut le passer sous presse. Et par transfert, on a un tirage qui une estampe qui sort. Et donc c'est un peu Noël chaque fois qu'on ouvre, qu'on soulève le, parce qu'on se demande si le dessin est raté ou pas. Donc c'est très une technique que j'aime beaucoup et avec laquelle j'ai déjà fait quelques histoires. Et je trouvais cette technique parfaite pour parler des usines avec déjà l'action d'une presse qui est un outil mécanique, l'encre qui rappelle l'huile, le métal, quelque chose que je trouvais très très cohérent dans cette histoire.
Oui, mais sauf que cette histoire se déroule sur 230 pages.
Oui, et il y a plus de 2000 dessins.
Mais ça donne quelque chose de très beau et de très brumeux en même temps.
À l'inverse du dessin où on dessine à partir d'une feuille blanche, moi, en général, j'encre toute la plaque et je pars du noir. Donc, les dessins sont par nature très sombres et moi, je joue sur les valeurs de gris. C'est marrant parce que c'est comme si je faisais rentrer de la lumière dans mon dessin. Et c'est un peu comme si on était dans une usine noire et qu'on ouvrait les fenêtres. Et donc, il y a le rapport aux ouvertures, aux fenêtres est très important aussi. Aussi parce que c'est très long de faire les fenêtres avec cette technique, puisqu'il faut les dessiner en les évidant, ce qui est long.
Et pour les visages, pour les personnages, que ce soit les ouvriers, les contremaîtres, ou bien les épouses de ces ouvriers qui venaient le jour de paye pour être sûrs que leur mari n'allait pas boire toute l'intégralité de leur salaire, vous êtes parti à partir de photos d'époque ou sont des personnages complètement fictifs, y compris dans leur apparence physique, parce que le dessin, avec toute cette technique, on se rapproche quand même d'un dessin très réaliste.
C'est très étonnant ça, parce que moi je me base beaucoup sur la visualisation de films. J'ai vu énormément de films qui est ma source de pratiquement ma source principale pour la bande dessinée. Et du coup avec des films d'époque, j'ai beaucoup regardé La Belle Équipe de Duvivier avec Gabin justement, mais aussi Les Chaplin. C'est vraiment ma porte d'entrée, je pense que c'est Chaplin des temps modernes que j'ai vraiment regardé. Et après, il y a quelque chose dans le dessin des personnages, c'est que je pense que le personnage principal, je devais trouver des sortes de signes pour qu'on le reconnaisse. Donc je lui ai mis une casquette, et de plus en plus, il se met à ressembler un peu à, on va dire, à me ressembler à moi, puisque je me prenais en photo sur des poses pour essayer de voir comment la lumière réagissait. Donc il progressivement, il me ressemble de plus en plus. Et pour les autres personnages, c'est presque, et c'est un peu curieux de dire ça, mais c'est presque un hasard. Je regardais un film et puis j'ai fait un arrêt sur image à un moment où j'avais besoin d'un personnage. Un des personnages principaux, c'est un personnage qui vient d'un film de Chris Marker. Ce personnage s'est imposé, c'était lui d'un coup. Et je l'ai découvert comme ça et après j'ai juste répété ce visage toute la bande dessinée. Et ce personnage était là. Donc c'est très, très étonnant de voir apparaître des personnages et de les faire vivre comme ça. C'est une technique que j'avais jamais faite.
Pour revenir à l'histoire de la masse, il y avait 11 000 ouvriers en 1940. Quand l'usine ferme définitivement, ils étaient moins de 3 000, c'était en 2002. Qu'est-ce qui reste de cette période, de cette époque dans le Saint-Étienne d'aujourd'hui, puisque vous vivez toujours à Saint-Étienne?
Ouais.
Je suppose que cette bande dessinée doit faire plaisir aux anciens manuchards. Certains sont encore en vie.
Oui, il y en a plein qui sont en vie. Ben, il y en a que j'ai rencontré. Il y en a plein qui sont en vie et il y en a plein qui se mettent. Je me souviens quand j'ai rencontré les gens de la CGT à Saint-Étienne, ils étaient, et quand je leur ai parlé du pas de la Manu, ils ont été un peu agacés. Oh, on va pas s'en sortir de cette histoire du pas de la Manu. Et ils ont peur que ce qui reste soit cette idée qu'ils étaient un peu feignants, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Et je pense que ça va leur faire plaisir. Il y a une rencontre qui va être
Oui, parce qu'en même temps, on ne peut pas leur rendre hommage. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on rend hommage à des ouvriers qui ont passé leur vie à construire des armes, à fabriquer des armes pour les guerres?
C'est tout le problème du point de vue que j'ai dans cette BD, c'est-à-dire ça questionne beaucoup. Et l'idée, c'était de pas non plus charger les ouvriers, puisqu'en fait, la Manu, c'est une école. On rentrait à 15 ans à la Manu, et on faisait toute notre scolarité à la Manu et toute notre carrière à la Manu, ce qui n'existe plus maintenant, ou très rarement. Du coup, il fallait trouver une manière de ne pas charger ces personnages et de les culpabiliser. Et si jamais on analyse, ce qu'ils aimaient et ce qu'ils revendiquent, c'est construire des choses, c'est fabriquer des outils, fabriquer des pièces. Là, ils le défendent, mais dès qu'on aborde le sujet des armes, il reste vague. Oui, ben oui, on faisait ça, on aurait préféré faire des vélos, on aurait préféré faire
ou des frigos.
Ou des frigos, mais voilà, on a fait des armes. Peut-être qu'il y a quelque chose de les ouvriers les plus qualifiés font des armes. Peut-être que c'est comme ça, et c'est sans doute très triste.
Et vous résumez bien ce sentiment ambivalent dans votre bande dessinée, votre première bande dessinée, Baptiste Desrailles, Le pas de la Manu, Saint-Étienne, où se fabriquent les armes. C'est coédité par L'An 2 et Actes Sud. Merci beaucoup d'avoir participé au Réveil culturel.
Merci à vous de m'avoir invité.
Le Réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Corinne Amar à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation et ce matin à la prise de son, Ludovic Auger. Passez une bonne matinée, on se retrouve lundi à la même heure.